Je vous remercie Alessandro Pignocchi d'avoir accepté notre invitation ce soir pour présenter le dernier livre coécrit avec Philippe Descola. Car je sais qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Alessandro, il y a eu d'abord Anent, une bande dessinée parue chez Steinkiss, qui sont sous-titrées Nouvelles des Indiens Jivaro. Ensuite, il y a eu les petits traités d'écologie sauvage, qui sont au nombre de 3. Également paru chez Steinkiss, La recomposition des mondes, paru au Seuil, qui parle de l'expérience d'Alessandro sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et donc aujourd'hui, Ethnographie des mondes à venir, au Seuil, avec Philippe Descola. Et du coup, ma première question, c'était, dans les premiers livres, il y a quelque chose de vraiment politique, mais dans le livre en fait qui est celui qu'on présente aujourd'hui, tu parles de politiser l'anthropologie et on a moi qui du coup élu, on a un peu l'impression que tu vas un cran plus loin dans la politisation. Est-ce que tu peux parler de ça et aussi de nous dire comment est-ce que Philippe Descola a accueilli cette demande proposition sur une anthropologie politique?
Descola, il s'est laissé complètement manipuler et instrumentaliser. Il n'a pas encore complètement réalisé ce qui lui était arrivé. De temps en temps, il a envie de faire marche arrière, mais c'est trop tard. Le livre est sorti. C'est un projet qu'on a ourdi avec Christophe Bonneuil, donc le directeur de la collection Anthropocène et chercheur par ailleurs. Et l'un comme l'autre, et comme beaucoup de gens, on était... un peu frustré que toute cette mode autour du vivant, autour des non-humains, autour de l'idée qu'il faut changer fondamentalement notre rapport au vivant, qui est quand même une idée qui se diffuse et qui fait l'objet vraiment d'une sorte de vague éditoriale, ne tire pas toutes les conséquences politiques de ce qu'ils avançaient, parce que c'est pas anodin de dire qu'on doit essayer de prêter des intérêts aux non-humains, ne plus considérer les plantes et les animaux comme de la ressource ou des espaces à protéger, mais comme des partenaires avec lesquels on tisse des relations sociales, des relations d'entraide, de négociation, etc. Mais dire tout ça, c'est très joli, effectivement, c'est une idée qui est à la mode, mais c'est très bien, c'est pas une mode arbitraire, c'est une mode qui a des fondements solides et c'est très bien, mais ça a des conséquences politiques, notamment une incompatibilité frontale avec non seulement le capitalisme, mais même au-delà de ça, un monde qui est régi par les lois de l'économie. Et on était un peu frustrés avec donc Christophe et d'autres que ça soit pas dit à la hauteur de ce que ça aurait dû être dit, enfin, qu'il y avait un décalage entre l'ampleur que prenaient les questions du vivant dans les médias et l'absence ou la quasi-absence de questions sur vraiment les institutions, les structures institutionnelles qui organisent notre monde et notre façon d'être au monde et notre façon collective d'être au monde. Et on s'est dit que quand même, si Descola, qui est le grand esprit tutélaire de toute cette vague autour du vivant, enfin pas le seul, mais en tout cas un des grands esprits tutélaires de cette mode, venait à se prononcer là-dessus, ça aurait un certain poids politique, On ne sait pas encore si ça... Alors, sur Descola, ça a vraiment marché au-delà de nos espérances. Maintenant, il se retrouve dans les médias à tenir des positions anarcho-libertaires, ce qui n'était pas du tout son... Mais bon, il est bien obligé, vu qu'il a signé le livre. De temps en temps, il fait des sorties de route, c'est un peu inattendu, parce que tu sens qu'il n'est pas complètement familier avec le sujet, lui non plus, Mais donc oui, c'est ça. Et sinon, le fait qu'effectivement la question politique soit de plus en plus explicite, c'est juste mon parcours à moi. Ma politisation est assez... récente, j'étais, je me disais, je viens d'une famille communiste, ancien résistant, donc je me considérais comme vaguement politisé et passionné de nature. Donc ça a été le premier mouvement, c'était de lire Descola et d'apprendre qu'on n'avait plus vraiment le droit de dire qu'on était passionné de nature, ou en tout cas que la protection de la nature n'était pas l'horizon politique ultime, et qu'il y avait un au-delà de la protection bien plus désirable que la protection via le parc national, qui était une forme de vivre avec, de subjectivation des non-humains. Et ensuite, je viens du monde de la recherche, donc malheureusement, surtout en France, il y a quand même une forme d'étanchéité du monde militant qui peut intimider ou même rebuter un peu, et je m'y étais jamais vraiment frotté, Et donc toutes les questions politiques flottaient dans une sorte d'abstraction, comme pour beaucoup de gens, J'étais horrifié par tout un tas de choses qui se passaient dans le monde, les injustices, la destruction de la planète, mais ça restait du registre du discours. Et c'est vraiment la rencontre avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui a pour le coup, qui est une école de politisation vraiment la plus efficace que je connaisse, quoi. En tout cas, pour transformer en réalité concrète des choses qui, jusque-là, pour moi, étaient des abstractions, quoi. Mmh. Donc, c'est ça, ce trajet-là. Et bon, là, après, l'explicitation d'un discours politique un peu plus vigoureux, c'est quand même dans l'air du temps, quoi. Enfin, c'est un peu nécessaire, quoi.
Donc, manipulation de Philippe de Scola, j'ai noté.
Il n'est pas là.
Il y a une question que je voulais te poser qui est un peu là-dessus. Mais je voulais revenir peut-être avant, puisque justement, il y a des personnes qui n'ont pas forcément lu ce travail-là. Revenir sur le principe de départ dans le propos qui est que le... Alors je cite, hein, ce sera plus long. Le concept de nature, loin de désigner une réalité objective, est une construction sociale de l'Occident moderne. Donc on part de là, sur la construction du concept de nature. Et tout le propos du livre, mais pas seulement de celui-ci, des écrits de Descola, et les tiens aussi en partie, mais tu corrigeras, puisque tout ça était nouveau pour moi. Donc que cette construction est la base du fait qu'on utilise les ressources et l'attaque, en fait, ce en quoi l'attaque est politique, c'est que le fait de battre en brèche ce concept-là est une lutte en soi contre le capitalisme, parce que c'est ce que vous expliquez, c'est forcément conjoint, il n'y a pas de possibilité. Et est-ce que tu peux redire du coup ce que serait le naturalisme pour que...
C'est le choc intellectuel d'origine qui m'a fait finalement basculer vers la BD. Hein. Un temps, j'avais le projet de, parce que donc je viens de la recherche académique, j'avais le projet de travailler ce choc-là avec les outils de la recherche classique, mais ça aurait été vraiment extrêmement frustrant, et Dieu merci, j'ai eu cette porte de sortie avec la bande dessinée. C'était beaucoup plus enthousiasmant de faire ça avec ces outils-là, quoi. Mais le choc, c'est celui que beaucoup de gens ont reçu en lisant les écrits de Descola ou d'autres, hein. C'est pas le seul qui a apporté cette idée-là. Moi, le choc a été particulièrement vigoureux parce que, comme je disais, j'étais ornithologue, une passion pour l'ornithologie qui confinait parfois à la pathologie quand j'étais petit, quoi, et je m'étais toujours dit passionné de nature. Et le fait qu'il y ait quelque chose dans le monde qui s'appelle la nature et qui est clairement distinct de la culture, c'est quelque chose qui est si évident pour nous, si fondamental, on baigne tellement dedans, toutes nos institutions, tout notre rapport au monde baigne dedans, que c'est un inquestionnable, quoi. La pensée critique n'a pas de prise spontanément sur cette distinction-là, dans la mesure où pour pouvoir penser un concept ou une distinction, il faut être capable d'imaginer son contraire, quoi. Et nous, dans l'Occident moderne, contemporain, on n'a même pas l'idée d'imaginer qu'il puisse avoir autre chose que un monde sans distinction entre nature et culture. Ça fait partie des grandes distinctions fondamentales qui vraiment organisent nos subjectivités et notre rapport collectif d'être au monde. Et donc quand on lit que cette distinction-là a émergé petit à petit dans les deux derniers millénaires et qu'elle s'est vraiment durcie et solidifiée que lors des deux derniers siècles, et qu'en tout cas pendant la vaste majorité de l'histoire des sociétés humaines et ailleurs dans le monde, dans les lieux où l'Occident moderne n'a pas encore apporter avec lui ces concepts, les humains se passent de cette distinction, ignorent cette distinction, font autrement, et cette distinction qui donc, comme tu l'as dit, pour nous regroupe, et c'est vrai que dès qu'on y pense deux minutes, on se dit c'est quand même effectivement étrange de mettre autant de choses aussi différentes, autant d'êtres aussi différents, donc les plantes, les animaux, les milieux de vie, les phénomènes, tout ce qui échappe ne serait-ce qu'un peu à l'intentionnalité humaine se retrouve dans une grande catégorie, la nature, et massivement objectifié, quoi, massivement transformé en un objet qu'on peut exploiter, donc à merci, sans aucun devoir de réciprocité, exploiter ou protéger si on le décide, ou contempler, admirer selon les normes de la contemplation esthétique. Mais en tout cas, c'est des objets, et l'intériorité, la vie sociale, tout l'arbitraire de la culture, c'est du côté des humains. Et donc découvrir que pour les peuples, notamment amazoniens, mais tant d'autres, cette distinction n'existe pas, et les non-humains, les plantes, les animaux sont intégrés à la vie sociale. On se sent spontanément un devoir de réciprocité envers eux, comme on pourrait avoir envers un voisin ou avec un membre de la famille, et qu'on tient spontanément compte de leur intériorité, on leur prête une vie sentimentale, intellectuelle, similaire à celle dans sa... dans ses fonctionnements de base, en tout cas similaires à celles des humains, ouais, ça ouvre des perspectives complètement vertigineuses, quoi, notamment en termes de lutte écologiste. Si ça, que tu dis, bah non, la protection reste une forme d'objectivation et de domination. Il y a finalement le contraire de, parce qu'on spontanément on pense que si on est choqué par l'exploitation des milieux naturels, le contraire, l'inverse, le contre-pied absolu de l'exploitation, c'est la protection. Et là on découvre que c'est deux facettes complémentaires d'une même médaille, et que le contrepoint vraiment radical, c'est de sortir de cette dualité, de sortir de cette médaille pour aller vers une forme de vivre avec, diplomatique, en bonne entente avec avec les non-humains. Et en effet, quand on commence à creuser ça, on peut partir dans toutes les directions, quoi. Ça peut soulever des questions philosophiques. C'est pour ça que les bouquins de Descola ont inspiré des auteurs dans des disciplines extrêmement différentes, quoi. Mais sur les questions écologiques, ça donne une autre perspective. Nous on donne des arguments dans le livre, alors pas en creusant énormément, mais on considère que c'est une relative évidence qu'il n'y a pas de sorte d'issue à la crise écologiste sans remise en question de cette distinction entre nature et culture, qu'une écologie comme l'écologie portée par les classes dominantes aujourd'hui, qui sera une écologie gestionnaire, c'est-à-dire où on conserve un statut d'objet aux plantes, aux animaux et aux milieux de vie, mais simplement on les gère mieux, quoi. On s'y prend mieux pour que les ressources ne s'épuisent pas trop vite, avec de la technologie, du numérique, des algorithmes de toutes sortes pour essayer d'avoir une gestion plus rationnelle des ressources. On pense que cette écologie, d'une part, ne fonctionne pas, pour plein de raisons, notamment parce qu'elle enferme donc dans cette dualité exploitation-protection, qui est une dualité biaisée, parce que c'est facile d'aller de la protection vers l'exploitation, mais le chemin inverse est beaucoup plus compliqué. Et du coup, il suffit d'un petit changement économique. Il y a plein d'exemples en ce moment de zones Natura 2000, par exemple, qui passent en exploitation parce qu'il y a, voilà, il y a un besoin de ressources ou un changement dans l'économie du lieu. Et évidemment, faire le trajet inverse, la restauration, c'est autre chose. Donc ça fait un phénomène de cliquet qui, de toute façon, tend vers la destruction. Et surtout, l'argument de fond, qu'on développe un peu, mais qui mériterait sans doute d'être creusé plus, c'est la pauvreté de la relation de sujet à objet dans lesquels nous enferme le concept de nature. C'est-à-dire que les non-humains, globalement, sont des objets. Donc le mode de relation qu'on a avec eux, c'est de l'utilisation, c'est-à-dire une sorte de calcul coût-bénéfice. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Quelles fonctions ils peuvent remplir pour nous? Alors que si on leur ouvre le registre du social, ça prend une épaisseur émotionnelle, notamment affective. On leur ouvre notamment nos facultés empathiques, et ça donne un monde beaucoup plus dense, beaucoup plus intense et potentiellement agréable à habiter qu'un monde où on est entouré d'objets, quoi. Et on discute, on imagine pas, enfin, on peut pas vraiment se représenter ce que ça fait pour un Indien à tueur, par exemple, un Indien d'Amazonie, de marcher en forêt, de partir à la chasse en forêt, quand chaque être qu'il croise peut potentiellement lui apparaître en rêve pour lui faire des requêtes, se plaindre. Il peut rentrer dans des interactions communicationnelles avec à peu près toutes les bêtes qu'il entend. Chacune a des normes de vie qu'il connaît, qu'il partage. Il est dans une foule. On imagine bien que émotionnellement, même visuellement, même perceptuellement, auditivement, c'est une richesse et une épaisseur qui n'a rien à voir avec celle d'un occidental qui va contempler la forêt, quoi, qui va être dans un rapport de pure contemplation esthétique, quoi. Donc on se dit qu'un déplacement de ce type-là, indépendamment encore une fois des questions, au-delà des questions de faisabilité d'une écologie gestionnaire, que le monde serait beaucoup plus chouette si on opérait collectivement ce déplacement-là. Et ça a son importance en termes de proposition écologiste, vu que c'est, du coup, on dit, on c'est pas juste une proposition qui aspire à éviter la catastrophe, quoi. On dit pas juste, on est tous éco-anxieux, on a peur du dérèglement climatique, donc on va se priver, engager un certain nombre de se priver de tout un tas de joies et de plaisirs pour essayer que le monde ne s'effondre pas complètement. C'est pas des affects qui sont très efficaces sans doute pour mettre en mouvement, quoi. Juste éviter le pire, ce qui sous-entend que là ça va, alors qu'il y a quand même beaucoup de raisons de penser que c'est pas génial et qu'indépendamment de la crise écologique, on mérite mieux, quoi. On peut faire mieux. Et du coup, c'est ça qui est joli dans l'idée que subjectiver les non-humains, ça fait un monde On se bat pour un truc mieux que la situation actuelle, quoi. Pas juste pour éviter le pire, quoi.
Sur la partie économique, vous abordez, enfin sur les différents chapitres, vous abordez pas mal de questions sur le lien entre donc la ressource et l'économie. Est-ce que tu peux éclairer un peu aussi les questions de justement de ressources et d'argent? Il y a un point qui est pas beaucoup abordé, c'est la question de l'argent sur la, enfin parce qu'on est à la fois sur des luttes et des organisations sur des territoires et des idées qui sont pour lutter contre la sphère économique, mais qui sont quand même dépendantes de cette sphère. J'ai trouvé qu'il y avait un point vraiment intéressant dans la conversation que tu as avec Descola, c'est quand vous parlez du temps de travail, en gros, où c'est aussi une caractéristique occidentale que d'utiliser des choses qui facilitent le travail pour augmenter la production, alors que dans plein de peuples dont il est question, c'est pas le cas. Si on fait autre chose en fait que travailler, produire et accumuler. Mais néanmoins, dans la conversation, Descola reconnaît que, par exemple, il a eu du mal à entendre le principe du revenu, de ce qui serait un revenu universel. Et je trouve qu'il y a, toute une partie du rapport à l'argent, que ce soit sur les ZAD ou qui peut être un peu plus fouillé, de voir comment, effectivement, financièrement, enfin, je ne demande pas un tableau exhaustif, mais sur le rapport à l'argent, en tout cas, il y a plein de choses intéressantes aussi à prendre en considération, parce que il y a quand même besoin d'argent. Enfin, comment des territoires peuvent être autonomes sans utiliser la monnaie?
Mais argent et monde dominé par la sphère économique, c'est deux choses extrêmement différentes. Tu peux tout à fait avoir un monde où la sphère économique est réimbriquée dans le politique et qui garde de l'argent. On n'appelle pas du tout à l'abolition de l'argent dans le. Et c'est pas. Non. Par contre, la thèse de fond qui est peut-être l'idée qui est la plus importante du livre et qui est d'une banalité et d'une trivialité qui confine vraiment au vulgaire, comme il se trouve qu'elle est pas, elle est peu développée, notamment encore une fois par toute cette vague d'auteurs qui disent bon, il faut prêter une intériorité aux non-humains, il faut arrêter de les considérer comme de la ressource, il faut les considérer comme des personnes ou comme des êtres, en tout cas comme des créatures envers qui on a des devoirs moraux et des devoirs de réciprocité. Que cette idée-là, ce projet-là, est incompatible avec le statut qu'a acquis la sphère économique depuis deux siècles en Occident, qui est un statut de domination complète du politique, quoi. C'est-à-dire que soit les règles du jeu économique déterminent les décisions qui concernent le vivre ensemble, soit en tout cas elles servent à les justifier. Donc bon, ça c'est encore une fois une tarte à la crème, hein, que les idées de les notions de croissance, de rentabilité, etc., sont plus des outils au service d'autres choses, mais des fins en soi qui déterminent les décisions politiques. On va dire, bah, on est obligé parce que on est obligé d'imposer ça, d'imposer toute cette batterie d'horreur et d'injustice parce qu'il faut viser la croissance. Et là, encore une fois, cette création d'une sphère autonome qui s'appelle l'économie, là aussi, c'est une exception de l'Occident moderne. C'est à deux siècles, quoi, dans les autres peuples du monde, y compris ceux qui ont des échanges extrêmement riches à très grande échelle, y compris des échanges médiés par des formes d'argent, échanger des objets, c'est toujours plus qu'échanger des objets, c'est aussi tisser des relations de solidarité ou d'inimité, reconfigurer les alliances, c'est toujours pris dans un tissu social et politique, et en tout cas c'est les échanges ne déterminent pas les décisions qui concernent le vivre ensemble, quoi. Et chez nous cette progressive création d'une sphère autonome des échanges et de lui donner un statut dominant sur le reste du politique, c'est quelque chose d'extrêmement particulier. Or, il se trouve que une sphère est l'économie pour fonctionner. Et encore une fois, c'est plus vaste que le capitalisme. Ça inclut évidemment le capitalisme, mais c'est un monde où les choix économiques déterminent le politique, quoi. Et un système économique, quel qu'il soit, pour fonctionner, a besoin que chaque chose soit interchangeable. C'est le principe du marché, quoi. Il faut que tu puisses jeter dans le marché n'importe quelle entité, quoi, que ce soit un non-humain ou du temps de travail humain ou un objet, etc., doit pouvoir être résumé à une valeur purement marchande pour être interchangeable. Or, c'est les objets qui sont interchangeables. Un sujet, à partir du moment où tu prêtes une intériorité à un être, il n'est plus interchangeable. Tes parents, tes amis proches qui ont une intériorité, tu ne peux pas les interchanger, tu ne peux pas les faire rentrer dans le libre marché, quoi. Si on décide de te les échanger contre une somme de monnaie, il y aura quelque chose de choquant dans cette idée. Et donc, si on veut aller vers un monde où on attribue le même genre d'intériorité aux non-humains, ça veut dire qu'on les sort des lois du marché. Enfin, en tout cas, l'économie tire dans un sens qui est l'objectification, qui est de transformer tout ce qu'elle touche en objet, y compris les humains, qui deviennent des ressources humaines. Tout doit être interchangeable et privé d'intériorité. Et de l'autre sens, tu as tout un tas d'auteurs qui disent « Ah, il faut prêter une intériorité au non-humain », et nous on dit juste il faut juste prendre acte de l'incompatibilité entre ces deux forces, quoi. Ça tire vraiment en direction opposée. Donc si on dit on veut subjectiver les non-humains, il reste deux possibilités. Soit on fait ça en restant sous cette chape économique, et dans ce cas là ça veut dire que c'est purement individuel, quoi, que c'est chacun chez soi avec son animal domestique, ou ceux qui ont le temps et les moyens de faire des randonnées, d'avoir des jardins, etc., qui vont s'entraîner à prêter une intériorité à leur laitue, à leur rouge-gorge. Mais en gros, ça veut dire que toute cette vague autour du vivant se résume à du développement personnel pour riches, en gros, quoi. Et du coup, c'est pas hyper intéressant. Mais par contre, si on veut que ça s'érige au statut des institutions, que ça pénètre vraiment les normes, les règles qui organisent notre vivre ensemble, alors c'est incompatible avec la sphère économique et le statut qu'elle a acquis. Et dans ce cas-là, ça veut dire réincruster l'économie dans le politique. Ça veut dire que les décisions ne sont plus soumises à des questions d'échange, de rentabilité, de croissance, etc., mais à ce qui est décidé collectivement comme désirable ou non, quoi. Et donc ça fait quand même une transformation extrêmement radicale. Et donc on invite à prendre acte de ça, qui est un fait tout simple, quoi. Après, c'est que le début des problèmes, hein. Une fois qu'on a dit ça, il y a plein de façons de réincruster l'économie dans le politique. On est au tout début du travail, mais au moins prendre acte de ça, que si on parle du vivant et de le subjectiver, soit c'est on s'adresse qu'à une bourgeoisie aisée qui va faire ça à chacun dans son coin et sans aucune inflexion de la crise écologique en cours, soit on veut en faire quelque chose qui structure nos façons d'être ensemble. Et dans ce cas-là, il faut développer ce que ça veut dire, quoi. Il y a des conséquences extrêmement concrètes et complexes à ça, quoi. Et encore une fois, je n'ai pas complètement répondu à ta question, réincruster l'économie dans le politique, ça ne veut pas du tout dire se passer d'argent. Tu peux même avoir un marché, en fait. Tu peux même, mais du moment que les décisions qui concernent toutes les grandes dimensions du vivre ensemble, de comment on habite, comment on se nourrit, comment on gère tout un tas de tout ce qui concerne la vie collective, n'est pas soumise à des. Après, si que les échanges, qu'il puisse y avoir des sphères. Et oui, en fait, à chaque fois, la méthode un peu générale, ce qui est quasi rhétorique, quoi, c'est de défendre une thèse politique qui nous est sympathique, et ensuite de sortir des outils anthropologiques pour dire d'ailleurs ça a été comme ça partout dans le monde, donc ça prouve que c'est pas spécialement bizarre ce qu'on dit, quoi. Et notamment la situation de très loin la plus classique pour les sociétés humaines, c'était que quand il y avait, pour les sociétés qui connaissaient des échanges à très grande échelle de toutes sortes de produits, de denrées alimentaires, etc., les biens de subsistance, ce qui touchait à la survie, quoi, l'alimentation et le logement en gros, circulaient dans des sphères autonomes et n'étaient pas interchangeables avec des biens de prestige, quoi, avec des biens liés au prestige. C'était des sphères étanches. Tu pouvais pas échanger de la bouffe contre des coquillages qui faisaient de toi une personne, ou contre des formules rituelles, etc. C'est extrêmement particulier que chez nous tu puisses un yacht et un paquet de pâtes rentrent dans le même puissent rentrer dans le même circuit d'échange.
Mais c'est agréable aussi quand on vous lit, justement, de voir qu'il y a cette remise en cause. Quand tu dis on se demande la question, est-ce qu'on n'utilise pas ces outils, parce que ça nous, enfin, il y a beaucoup de remises en cause que vous faites et de questions qui sont laissées aussi comme ça, notamment comme est-ce que c'est pas des postures de bobo que de partir sur ces idées-là, etc. Il y a plein d'idées qui sont avancées là-dedans. Et il y a une autre idée que j'ai retrouvée à deux endroits, c'était vous évoquez les différents projets politiques, le fait aussi que la lutte écologique ne peut pas suffire en soi, qu'il faut qu'elle soit couplée à un projet politique. Tu cites beaucoup d'exemples avec celui de la ZAD. Tu laisses aussi entendre que l'écriture d'un projet politique en parallèle à cette révolution un peu intellectuelle ou culturelle, en tout cas, qui serait nécessaire. Tu évoques aussi des projets politiques qui pourraient ne pas être satisfaisants, mais je connais pas, je sais pas si ça existe, enfin j'imagine que si. On a reçu la librairie pas mal de livres qui traitent là-dessus, des éco-fascismes, etc. Et il m'a semblé que c'était aussi ce que tu.
C'est ça, c'est juste dire subjectiver les non-humains et réincruster la sphérique. Donc on dit subjectiver les non-humains, donc on donne des arguments pour dire voilà, ça c'est clairement une bonne idée, on souscrit, dépasser la distinction nature-culture, elle a fait son temps, ça a apporté des choses, là, ça a permis le développement des sciences, de tout un tas de trucs, mais là, pour plein de raisons, on considère, ne serait-ce que parce que pour enrichir notre relation subjective au monde, quoi, faut la dépasser. Donc, ça c'est le point de départ. Donc, si on veut la dépasser, il faut se défaire de la sphère économique, la réincruster dans le politique. Sauf que ça, voilà, c'est, comme tu dis, c'est compatible avec tout un tas de projets différents. Le nazisme est une façon de réincruster l'économie dans le politique, les questions politiques. La guerre en Ukraine, sans doute, ça relève de ça aussi, quoi, parce que c'est une guerre qui n'a pas vraiment, c'est pour ça que personne n'y croyait, c'est une guerre qui n'a pas vraiment de sens économique, on a l'impression, quoi, c'est, alors que toutes les autres, il y avait toujours des raisons impérialistes de ressources, etc. Là, on a l'impression que c'est effectivement des questions politiques qui prennent le pas sur. Donc, ça, c'est pas du tout, ça fait pas un projet politique désirable en soi du tout, quoi. Et du coup, mais par contre, ce qu'on essaye de. Donc, la facette désirable du truc, c'est qu'on essaye de dire que cette histoire de subjectiver les non-humains, c'est quand même extrêmement compatible, ça se marie vraiment très bien avec les hypothèses de type communaliste où les décisions politiques qui concernent, encore une fois, le vivre ensemble sont le plus relocalisées possible, quoi, se prennent à l'échelle du territoire et où quand on se demande comment on va habiter, comment on va cultiver, comment on va élever des bêtes, etc., c'est... ceux qui de fait habitent le territoire qui en décident avec des formules type assemblée parce que c'est quand t'as tissé des liens affectifs avec le territoire que t'es en mesure de prendre des décisions qui prêtent une intériorité au non-humain et ça fait cercle vertueux en gros quoi, que plus les décisions politiques sont localisées plus tu es enclin à tenir compte des intérêts des non-humains. On se base évidemment beaucoup sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui est l'exemple près de chez nous. Il y en a plein d'autres, hein, des endroits où collectivement on arrive à desserrer un peu l'étau économique et donc à s'offrir le luxe de prêter une intériorité au non-humain. Mais la ZAD a quand même atteint une taille. Ça dépasse un seuil quoi, en termes de taille. C'est pas juste un collectif, c'est un ensemble de collectifs très différents les uns des autres, dispersés sur un territoire, mais où il y a ce présupposé commun qui n'a pas été décidé en amont d'ailleurs, qui s'est imposé de les prairies, les forêts, les tritons, tout ça, c'est ni de la ressource, ni des espaces à protéger, c'est des voisins, c'est des compagnons de lutte, c'est des camarades, quoi. Et donc, quand on décide de où est-ce qu'on va mettre nos brebis, par exemple, on tient spontanément compte de, c'est pas la question de la rentabilité, évidemment, en termes de viande ou de lait ou de quoi que ce soit, mais c'est quelle partie du bocage commence à être envahie par des joncs, donc qui mériterait d'être pâturée. Pareil pour la forêt, quand on prélève du bois, c'est les questions de régénération de la forêt qui priment sur le besoin en bois. Et l'hypothèse relativement optimiste qu'on essaye de défendre, c'est qu'on est dans une période historique où entre souffrance due au désenchantement du monde, à la tristesse d'un monde où tous les non-humains sont des objets et peur de la crise écologique, dès qu'on arrive à s'organiser collectivement pour desserrer un peu l'étau économique, pour retrouver un peu de marge de manœuvre quant aux décisions politiques, alors la prise en compte des intérêts des non-humains émerge assez spontanément, quoi. Ce qui aurait peut-être pas été le cas il y a encore 10 ou 20 ans, quoi, ou 30 ans. Que là, vraiment, ça va tout seul. Moi, on discute alors d'assez loin, parce qu'on connaît mal, malheureusement, mais des transformations que j'ai observées dans des collectifs de gilets jaunes, quoi, une vitesse de transformation d'une lutte qui restait dans une matrice productiviste relativement classique pour le pouvoir d'achat, etc., qui très vite mute en une espèce de revendication de sortir du statut d'objet interchangeable et jetable pour retrouver des formes de solidarité, et cette solidarité-là s'étend assez spontanément au non-humain, quoi. C'est tellement clair qu'ils sont écrasés par les mêmes forces que nous, que c'est les mêmes rouages, que ça devient des assez vite des partenaires d'oppression et de lutte. Et ça, c'est je pense un déplacement assez récent, parce que c'est une remise en cause complète de l'utopie progressiste moderne, quoi, qui était de on va grâce à la technologie ne plus du tout exploiter les humains, il y aura plus de travail aliéné. Bon, ça a complètement foiré par ailleurs, mais en tout cas le rêve moderniste né avec Descartes, en gros, quoi, c'était il n'y aura plus que les non-humains qui seront exploités grâce à la machine, mais bon, eux ils n'ont pas d'âme, donc c'est pas grave, et par contre tous les humains seront libérés de ça. Donc revenir là-dessus, c'est une remise en question, ouais, de l'utopie de ce qu'a été la notion de progrès pendant longtemps. Et Et vraiment, c'est sur la question de l'autonomie territoriale, évidemment, le nœud du problème, c'est les questions agricoles, quoi, comment sont gérées le. Et c'est particulièrement flagrant sur ce... Enfin, il y a plein d'évidents, on pourrait prendre des exemples dans absolument tous les domaines, tout aussi bien dans le domaine des humains que des non-humains, mais disons le fait qu'un petit éleveur qui fait ça par passion, qui a de l'empathie pour ses bêtes, chacune de ses brebis ou de ses chèvres a un prénom, et vraiment quand il y en a une qui est malade, il souffre pour elle, il passe la nuit avec elle, mais il est pris dans un rouage, déjà l'obligation évidemment de les envoyer à l'abattoir, ce qui est un déchirement, et ensuite une obligation de s'agrandir, d'être rentable, de respecter un certain nombre de normes qui sont précisément pensées pour ça, et il doit s'agrandir. Et il y a des citations de paysans qui disent, par exemple des éleveurs de vaches qui disent, c'est aux alentours de 50 vaches, au-delà de 50 on leur donne plus de prénom parce qu'on devient fou, quoi. Justement les forces, on est obligé de les objectifier, on est obligé de cesser d'avoir de couper les mécanismes empathiques, parce que sinon, comme on est tellement obligé de les maltraiter, et on sent bien que c'est une dynamique, cette force objectifiante des institutions contemporaines, c'est dans tous les domaines, quoi. Faire les humains, faire le personnel hospitalier te dira la même chose de ces malades. Un chef d'entreprise ne peut pas, enfin, s'il commence à avoir de l'empathie pour et raisonner lui-même avec tout le mal qu'il fait à ses employés, pareil, c'est la fin. Donc on est, pour résister à cette force objectifiante, ça nécessite, voilà, de desserrer les taux économiques. Donc une des méthodes pour faire ça, c'est celle de la ZAD, c'est via la pratique des communs, retrouver des formes d'entraide spontanée, d'entraide de pensée, et des modes de décision politique relocalisés qui font que, voilà, les décisions en termes agricoles notamment ne sont plus soumises aux lois de l'économie, mais à ce qui est décidé collectivement à l'échelle d'un territoire, comme ce qui est désigné comme désirable et souhaitable, quoi. Et l'hypothèse un peu peut-être originale qu'on fait sur ce point-là, pour essayer de rendre cette hypothèse politique plus crédible aussi, c'est de dire, en fait, une situation où des territoires autonomes type ZAD, mais il y a plein d'autres formes, encore une fois, évidemment beaucoup plus nombreux que ce qu'ils sont, et puissants que ce qu'ils sont aujourd'hui, idéalement organisés en réseau, voilà, pour gagner vraiment du poids, une situation où ce genre de maillage de territoires autonomes cohabite avec une structure étatique, c'est peut-être une situation en soi désirable, quoi. Il n'y a pas besoin d'imaginer que le communalisme, ce qui est de façon assez dure, on ne voit pas trop comment ça pourrait devenir dans les temps qui viennent, quoi, qu'on bascule avec une formule type grand soir vers une organisation globalement communaliste, mais qu'une situation où des territoires autonomes cohabitent avec des États, ça peut être bien, notamment parce que, et c'est, là c'est une réponse entre autres à Frédéric Lordon, quoi, qui, il y a toute une critique de la gauche néo-marxiste classique qui disent, c'est très bien vos histoires de ZAD et d'autonomie territoriale, mais vous vous enfuyez là dans vos potagers du Diwa, plantez vos trucs, et vous laissez tout le reste du monde inchangé, et notamment le prolétariat écrasé par la machine capitaliste, et en fait vous vous en foutez, vous allez. Et on dit que pas du tout, parce que un État qui doit cohabiter avec des territoires autonomes n'est pas du tout le même État, quoi. Notamment parce que le fameux prolétariat en question a d'autres solutions pour se nourrir et se loger que de vendre sa force de travail sur un marché du travail, quoi. Et aussi parce que du coup, tu as des territoires qui, avec des potentialités offensives, voilà, on voit ça avec on en reparlera peut-être avec les soulèvements de la terre en ce moment, enfin des façons de transformer l'État, quoi, et que c'est un outil de transformation de l'État potentiellement extrêmement puissant. Et donc c'est ça, dans un futur proche, à quoi on aspire, quoi. C'est des formes d'autonomie territoriale qui réussissent à gagner en taille et en puissance politique, quoi. Et là encore, pour justifier ça, on sort l'anthropologie, l'archéologie, oui, et l'histoire, en disant c'est pas une hypothèse spécialement bizarre, dans la mesure où ça a été la règle dans l'histoire de l'humanité, quoi. Depuis 30 000 ans, t'as des structures de type étatique, c'est-à-dire avec un pouvoir politique qui tend à être capturé par des groupes relativement indépendants du reste de la population, hiérarchisés, etc., qui cohabitent avec des territoires qui s'organisent de façon autonome vis-à-vis de cette structure étatique, et avec des mouvements incessants de population entre les deux. Donc on parle beaucoup de l'Asie du Sud-Est, vu que c'est un endroit où cette situation a perduré jusqu'à très récemment, quoi, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et encore dans une certaine mesure aujourd'hui. Quand tu avais les États dans les plaines rizicoles, et dès qu'on montait un peu en altitude, c'était des territoires complètement autres, avec des mouvements incessants de population, quoi. Dès qu'un État devenait un peu trop autoritaire ou pénible, les gens grimpaient se faire autrement et changeaient complètement de mode d'agriculture. Quand ça allait mieux, on redescendait vers l'État. Et une situation comme celle-là, voilà, serait, nous semble à la fois plus accessible qu'un renversement globale des institutions est évidemment beaucoup plus crédible qu'une transformation de l'État via les courroies classiques de la démocratie représentative. Ça, bon, on y reviendra peut-être, mais ça, quand même, on balaye ça assez rapidement, que, comme quoi l'idée qu'on puisse encore envisager un projet type social-démocratie où c'est les courroies légales qui permettraient une transformation, ça, quand même, on pourra en reparler, mais on a des arguments pour vraiment s'apesantir pas trop dessus, mais vraiment, on pense que c'est important vraiment de se défaire de ça.
Oui, mais il est question aussi pas mal d'anthropologie subversive, et pour ceux qui connaissent, vous savez à quel point ces mésanges sont féroces et violentes. Pour ceux qui connaissent pas, vous découvrirez. Est-ce que c'est un choix enfin, j'imagine que oui, c'est une question un peu con, mais quand même j'avais envie de la poser depuis le temps. C'est un choix conscient de ta part, justement, que les discours les plus violents dans tes bouquins soient portés par les mésanges?
C'est les pinsons les plus violents, c'est vrai, il y a des vrais.
Je sais pas, je suis restée sur les mésanges, mais il y a des connaisseurs.
Oui, c'est sûr que c'est plus facile d'avouer une fascination pour l'émeute quand c'est une mésange bleue qui en parle. C'est moins honteux. Mais donc oui, et puis aussi ça fait partie d'un ensemble. C'est aussi accepter de remettre les affects au premier plan, vu que là-dedans il y a aussi de découper les frontières étanches que dessine la modernité. C'est aussi laisser des circulations et des complexités affectives se faire, et que dans le milieu militant on accepte le personnage de la mésange bleue qui ne se prétend absolument pas rentrer dans l'action politique en raison d'un sens inné pour la justice, mais vraiment parce que il n'y a rien qui l'excite plus que l'émeute, quoi. Donc elle débat avec une mésange à longue queue qui, elle, est une social-démocrate déçue, quoi, qui petit à petit, au fil des BD, doit accepter qu'il n'y a plus de social-démocratie, que aménager les marges du capitalisme ne peut plus se faire parce qu'il a les moyens de ne plus se laisser faire. Et donc petit à petit, tout en essayant dans la forme de condamner moralement le goût de la mésange bleue pour les cocktails Molotov, elle en vient quand même à l'idée que c'est vrai que ça a l'air quand même de mieux fonctionner que ce à quoi elle croyait, elle, quoi.
Mais du coup, c'est quand même plus facile à faire porter par une mésange que par un.
Encore une fois, j'étais ornithologue. C'est ce genre de truc. C'est pas des projets qu'on réfléchit en amont, quoi. Ça vient tout seul. Je dessinais des oiseaux quand j'étais petit. Ça m'est revenu assez spontanément. Ouais. Là, maintenant, il y a des mésanges bleues à ma mangeoire. Il se trouve qu'elles passent leur temps à sauter sur des oiseaux trois fois plus gros qu'eux pour un espèce de goût gratuit. Et du coup, c'était assez spontané de leur faire tenir ces propos-là, quoi. Merci.
Merci.
Merci. Merci.